www.radioscoop.com. Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée au Brésil. À la veille de l'élection présidentielle, minée par les crises politiques, les problèmes économiques et les scandales de corruption à répétition. Huitième rang de l'économie mondiale selon les grandes institutions, Fonds monétaire international et Banque mondiale, le Brésil fait face à l'une des pages les plus sombres de son histoire politique. Dans une société de plus en plus divisée qui s'interroge sur la fiabilité de ses institutions et la crédibilité de ses hommes politiques, le géant d'Amérique latine cherche une sortie pour se reconstruire un avenir légitime et salvateur. La corruption a-t-elle eu raison de la prospérité et du rayonnement du Brésil? Regard avec nos invités. Par téléphone, Frédéric Louault, professeur à l'Université libre de Bruxelles, vice-président de l'OPALC, l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes au sein de Sciences Po, et co-auteur d'un atlas du Brésil aux éditions Autrement. Bonjour.
Bonjour.
En studio, Stéphane Witkowski, président du Conseil d'orientation stratégique de l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Bonjour.
Bonjour.
Et Dominique Vidal, professeur de sociologie à l'Université Paris Diderot, chercheur à l'Institut de recherche, migration et société, spécialiste du Brésil. Bonjour.
Bonjour.
Le Brésil, 209 millions d'habitants, sixième place du palmarès des pays les plus peuplés, 140 millions d'électeurs. Ce pays où le vote est obligatoire a connu une campagne électorale hors du commun. Personnalité la plus populaire au Brésil, l'ancien président Lula est en prison pour corruption et n'a pu se présenter au scrutin du 7 octobre car il a vu sa candidature être invalidée par la justice brésilienne. Le candidat Jair Bolsonaro, en tête des sondages, a été victime d'une attaque au couteau. Une campagne inédite dans un climat très polarisé, un contexte de crise multiple et profonde pour le plus grand pays d'Amérique latine. Frédéric Louault, du jamais vu, cette campagne électorale, édition 2018.
Oui, du jamais vu pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une campagne historiquement très courte et pleine de rebondissements et de surprises. Et aussi une campagne marquée par une forte polarisation. Alors bien sûr, si on va dans l'histoire du Brésil, on peut retrouver, notamment dans les années 1950, aussi des moments de forte polarisation comme cela. Mais une campagne marquée par des interventions de l'armée en politique, un rôle accru du pouvoir judiciaire, ou encore même un attentat contre l'un des candidats, ou un candidat qui, avant d'avoir sa candidature invalidée, a fait campagne depuis la prison, c'était quand même complètement inédit.
Stéphane Witkowski.
Oui, c'est une situation à la fois d'une dramatique dégradation de la situation politique, économique, institutionnelle du Brésil depuis 2 ans. Et je dirais que sur tous les indicateurs, la situation est extrêmement grave. Et cette campagne est totalement inédite, en effet. Plane, en filigrane, le rôle des militaires, ce qui est une nouveauté depuis 1964, c'est-à-dire le coup d'état militaire de l'époque.
Dominique Vidal.
C'est effectivement une situation inédite et surtout particulièrement incertaine, avec la possibilité de l'élection d'un candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui, si elle n'est pas encore acquise, semble de plus en plus probable, puisque les sondages confirment sa solidité dans les intentions de vote des électeurs.
Alors, juste pour nos auditeurs, et afin de dresser rapidement le panorama politique du Brésil dans le cadre de cette élection présidentielle. Donc, Michel Temer, qui a succédé à Dilma Rousseff, il a échappé à la destitution malgré des scandales de corruption. Il ne se représente pas en raison d'une impopularité record. La candidature de Lula, eh bien, on se pose la question de savoir si finalement elle n'aurait pas été la condition nécessaire à la résolution de la crise que connaît le Brésil, corruption, grande inégalité, racisme. Donc deux candidats qui mènent la danse, pour ainsi dire, Frédéric Louault, d'un côté Bolsonaro, un ancien colonel, et puis de l'autre Haddad, donc candidat du PT, le parti travailliste qui vient remplacer Lula.
Frédéric Louault. Tout à fait, des candidats qui étaient encore improbables il y a 2 ans. Donc Fernando Haddad, qui, rappelons-le, il y a encore quelques semaines, pointait à 4% d'intention de vote, et qui a bénéficié de la visibilité de Lula à partir du moment où la candidature de Lula était définitivement invalidée et que le Parti des Travailleurs a choisi Fernando Haddad comme remplacement. Ça, c'était une stratégie particulièrement intéressante, d'ailleurs. Tout le monde avait des doutes sur le potentiel de transfert de popularité de Lula vers un autre candidat comme Haddad. On a vu que ça avait fonctionné puisqu'il a été projeté de 4 à plus de 20% d'intention de vote en quelques jours. Mais face à lui, comme l'a dit Dominique Vidal, on a un candidat d'extrême droite qui est stabilisé en tête depuis plusieurs mois des intentions de vote, qui est à près de 30% d'intention de vote au premier tour, plus de 40% pour le second tour. Donc on a une campagne entre deux candidats inattendus dans l'histoire récente de la démocratie brésilienne, mais deux candidats qui sont au coude à coude.
Alors, campagne entre deux candidats, la première chose, on va après ça développer un peu les grands axes des plateformes de chacun. Dominique Vidal, Stéphane Witkowski, comment expliquer cette tentation de l'extrême droite aujourd'hui au Brésil? Monsieur Bolsonaro, c'est un candidat nostalgique de la dictature militaire entre 1964 et 1985. Il est plutôt homophobe, misogyne. Bref, comment expliquer qu'une personnalité comme lui atteigne les performances qu'il a dans les sondages? Stéphane Witkowski.
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs d'explication. Le premier, c'est qu'il joue sur le système, l'antisystème, le candidat antisystème, un peu comme on l'a vu aux États-Unis avec l'élection de Trump et dans certains pays européens, d'une part. D'autre part, il s'est engouffré dans une situation de crise économique, de récession économique qui a été forte. Et puis, je pense qu'il est en grande partie appuyé par certains secteurs de l'armée, et en particulier par les évangélistes, qui rejoignent avec un certain nombre d'intérêts nord-américains, et en particulier de grandes entreprises américaines, qui jouent un peu sa candidature. Soyons prudents néanmoins, c'est que c'est une élection qui aura deux tours, et donc il faudra quand même voir quelle sera la réaction, je dirais, au second tour. Et probablement, on a vu les vastes manifestations populaires, et notamment des femmes au Brésil, dans un certain nombre de villes, mobilisant en grande partie l'opinion publique contre sa candidature. Et puis probablement, il y a un autre élément qui joue, c'est que il y a une sorte d'alliance objective entre certains secteurs économiques et politiques, et aussi probablement une espèce de... Car quand on regarde son électorat, ce sont en grande partie des jeunes, issus de la classe moyenne brésilienne, et paradoxalement, relativement cultivés d'enseignement supérieur. Donc ce ne sont pas uniquement les milieux populaires, et ça c'est un facteur un peu de, je dirais, d'indication, je dirais, de sociologie politique, qui dit beaucoup sur, au fond, cette société brésilienne, et en particulier cette société de classe moyenne, qui a été en grande partie renforcé paradoxalement par la politique Lula, où effectivement 30 millions de Brésiliens qui ont intégré cette classe sociale moyenne brésilienne, qui se retournent en quelque sorte contre le gouvernement ou les institutions actuelles sans avoir connu, je dirais, la période militaire 64-85.
Alors Dominique Vidal, cette popularité de Bolsonaro...
Mais je pense que Bolsonaro parvient à capitaliser les multiples formes d'insatisfaction qui existent aujourd'hui au Brésil dans différents secteurs sociaux, puisque ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a une pénétration du vote Bolsonaro dans tous les milieux sociaux. Il apparaît comme le candidat anti-système. Tous les autres partis sont impliqués à des titres divers dans des affaires de corruption. C'est le seul candidat extrémiste, le candidat du Parti des Travailleurs. Le Parti des Travailleurs n'est pas un parti extrémiste, c'est un parti qui fait partie du système politique brésilien, même si la précédente présidente a été destituée. Mais le Parti des Travailleurs a joué la stratégie de la polarisation, avec l'idée que si on se retrouvait au second tour face au candidat d'extrême droite, eh bien, il y aurait une réaction du pays qui ferait que finalement le Parti des Travailleurs pourrait gagner l'élection. Or, aujourd'hui, ça n'est pas tout à fait sûr, que cette stratégie de polarisation porte ses fruits. Par ailleurs, Jair Bolsonaro a un programme économique qu'on ne sait pas très bien comment il va mettre en œuvre. L'économie n'est pas son fort, il n'en s'en cache pas, mais c'est un programme qu'on peut qualifier d'ultralibéral, qui effectivement peut satisfaire les intérêts d'un certain nombre d'entrepreneurs et de milieux sociaux, mais aussi c'est quelqu'un qui incarne des valeurs autoritaires, des valeurs d'ordre, de châtiment impitoyable, des délinquants qui, elles, sont profondément ancrées dans la société brésilienne, y compris dans les milieux populaires, qui pâtissent de la violence qu'ils subissent au quotidien et qui ont un assez faible attachement à l'idée des droits humains. Donc c'est un candidat qui s'est imposé comme le candidat anti-système, et ce qui semble faire son succès quand on regarde les intentions de vote. Après, il y aura les deux tours des élections, et peut-être que les résultats sont assez différents de ceux qui se dessinent aujourd'hui à l'observation des sondages.
Alors, on va reparler bien sûr de Bolsonaro et d'Haddad. Frédéric Louau, juste pour dresser un panorama complet des candidats à la présidence, il y a une femme ?
Oui, tout à fait, il y a une femme, Marina Silva, qui est candidate pour la troisième fois et qui s'est déjà placée deux fois à la troisième position. C'est la seule femme pour cette élection. Il y a plusieurs femmes candidates à la vice-présidence, notamment auprès de Fernando Haddad pour le PT, mais il y a une seule femme candidate à la présidence de la République, qui est une ancienne ministre de Lula, ancienne membre du Parti des Travailleurs, qui a rejoint les rangs de l'opposition et qui cherche à capter une partie de l'électorat évangéliste, mais avec un discours beaucoup moins radical et beaucoup plus tourné sur l'environnement et l'écologie.
Alors, je voudrais revenir sur ce qu'évoquait Dominique Vidal quant à la nécessité et à ce que représente Jair Bolsonaro en tant qu'ordre. C'est vrai qu'on se trouve dans un pays, le Brésil, où la violence est absolument endémique et elle atteint des niveaux absolument inégalés. En 2017, le Brésil a connu le niveau de mort violente le plus élevé du monde. Hors pays en guerre, plus de 60 000 décès. La corruption atteint toutes les strates de la société et tous les partis politiques. Alors, Bolsonaro est anti-système. Enfin, il est appuyé par des partis politiques qui sont eux-mêmes visés par les campagnes de corruption. Quelques mots sur les militaires. J'ai lu dans le cadre de la préparation de cette émission que 78% des Brésiliens disaient avoir confiance dans les forces armées, quand 68% se méfie des partis politiques et 67% du Congrès. Qu'est-ce que cela vous évoque, Stéphane Witkowski ?
L'armée au Brésil, pendant longtemps, c'était des hommes qui incarnaient en quelque sorte la classe moyenne brésilienne, mais qui étaient relativement intègres et qui n'étaient pas liés par ces affaires de corruption. Ce qui est vrai aussi, c'est que l'armée, d'une manière générale, est assez populaire, en tout cas elle était à l'époque, et sous notamment Lula, il y a une profonde réorganisation et modernisation de l'armée, en particulier de la marine, qui est très populaire. L'armée de terre, c'est un tout petit peu différent. Et on voit que les déclarations du général Mourão, qui est donc une personnalité qui joue un rôle politique dans cette campagne, inquiètent un tout petit peu, effectivement, certains secteurs au Brésil. Je dirais que le Congrès lui-même est en grande partie corrompu. Et le problème majeur du Brésil, c'est une réforme politique et institutionnelle qui manque en ce moment, parce que non seulement la classe politique est d'une médiocrité affligeante, mais en même temps, la constitution de 1988 est totalement inadaptée, totalement à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'il faut passer des alliances, si vous voulez, au Congrès, et donc il y a eu un émiettement, un éclatement de la vie politique brésilienne qui a coûté en grande partie la place à Dilma Rousseff, qui a été destituée dans le cadre d'un coup d'État parlementaire déguisé, mais sans aucun motif de corruption. C'était probablement la seule à ne pas être corrompue. Et comme elle a laissé faire la police et la justice faire leur travail, les politiciens se sont vengés de cela, puisqu'ils ont été petit à petit concernés par cette affaire dite Lava Jato. Ils ont dit, elle doit payer cela. Et donc, cette classe politique brésilienne, ce congrès, et selon d'ailleurs une ONG Transparency International, les trois quarts du congrès étaient totalement corrompus, impliqués dans des affaires de scandale. Donc, si vous voulez, peut-être que s'il y a une erreur que l'on peut reprocher, mais rétrospectivement à Lula, c'est de n'avoir pas fait cette grande réforme politique et institutionnelle à l'époque où il disposait d'une assise politique importante, qu'il n'a pu faire, que Dilma Rousseff n'avait plus les moyens de faire cette réforme en question, et on est dans une situation telle qu'on est presque en fin de régime, où il y a une espèce de quête d'un chef, mais malheureusement, celui qui aurait pu être effectivement ce chef-là, il a été interdit de se présenter, totalement contraire à la justice en réalité. Il y a eu un acharnement politique, médiatique et judiciaire, emprisonné sans preuve avérée. Et donc, c'était la deuxième étape de ce processus, et on se retrouve en quête d'un chef, et en l'occurrence, quelqu'un d'extrême droite, qui est à peu près celui qui pourrait menacer en tout cas la démocratie, mais qui peut apparaître comme une solution envisagée pour certains Brésiliens.
partagez, Dominique Vidal?
Je partage en partie. Bien évidemment, le Brésil gagnerait beaucoup à connaître une réforme politique qui limiterait le nombre de partis, qui permettrait une meilleure gouvernabilité du pays, puisqu'une des caractéristiques de la politique brésilienne, c'est que le président de la République ne dispose jamais de majorité au Congrès, c'est-à-dire qu'il lui faut tisser des alliances de circonstances et que par ailleurs, comme l'a dit Stéphane Witkowski, une grande majorité des parlementaires sont des gens qui ne sont pas irréprochables du point de vue de la probité politique, pour dire les choses de manière très euphémisée. Cette idée de réforme politique, c'est un serpent de mer du débat politique au Brésil. En même temps, c'est souvent évoqué comme une sorte de panacée. C'est-à-dire qu'on retrouve au fond ce qui est une vieille idée brésilienne, très positiviste. C'est l'idée que si on trouvait les bonnes institutions, on aurait la maîtrise du pays. Or, je crois que les problèmes du Brésil ne sont pas seulement des problèmes de classe politique. Une grande partie des problèmes du Brésil sont aussi des problèmes qui relèvent de ces dynamiques sociales, de la façon dont se sont constituées des inégalités très importantes au fil du temps, où le corporatisme comme mode d'organisation des intérêts a joué une grande influence. Et par rapport à ces dynamiques sociales, aucun des partis politiques aujourd'hui ne me paraît en mesure de proposer un programme véritablement satisfaisant ou même de dessiner un horizon de changement sociopolitique véritablement adapté aux caractéristiques sociologiques du pays ou à l'état de l'économie qui est particulièrement catastrophique.
Alors, ça nous permet, pour terminer cette première partie d'émission, d'aborder les questions effectivement économiques. Frédéric Louau, on a parlé donc de cette rupture de 2016 avec le départ forcé de Dilma Rousseff. Michel Temer lui a succédé. Le gouvernement, depuis l'arrivée de Temer, a gelé les budgets sociaux. C'est une sorte de retour à la case départ des plus pauvres. La faim a fait une réapparition brutale au Brésil. La mortalité infantile est repartie à la hausse. 6 enfants sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Et je le disais précédemment, en 2017, le Brésil a connu le niveau de mort violente le plus élevé du monde, hors pays en guerre, plus de 60 000 personnes. Frédéric Courreau, une situation économique compliquée.
Oui, une situation économique compliquée. La décennie qui vient de s'écouler plonge le Brésil dans la pire crise économique depuis un siècle. Donc la situation est dramatique. Et il est aussi intéressant de voir comment la droite qu'on appelait républicaine, incarnée par le PSDB, s'est elle-même emmêlée les crayons et jusqu'à disparaître du panorama électoral actuel. C'est-à-dire que quand la droite a initié le processus de destitution contre Dilma Rousseff et a pu s'appuyer sur le PMDB qui a trahi Dilma Rousseff, le PSDB a hérité d'une partie du pouvoir, de certains portefeuilles ministériels, et donc on a eu une nouvelle alliance PMDB-PSDB de centre-droit-droite. Et il y a eu beaucoup de promesses faites envers le peuple brésilien d'amélioration de la situation économique. Et finalement, entre 2016 et 2018, rien ne s'est amélioré, malgré finalement un appui de différents secteurs de la société qui aurait pu permettre de relancer le Brésil sur de bons rails. Et aujourd'hui, le PSDB paye aussi les frais de son impatience politique. S'ils avaient attendu peut-être jusqu'en 2018 que Dilma Rousseff s'en mêle elle-même et finalement laisse le pouvoir avec un taux de réprobation très fort, très certainement le PSDB aurait eu un boulevard devant lui pour remporter l'élection présidentielle en 2018. Là, ce qu'on voit, c'est que la stratégie du PSDB, finalement de mettre Dilma Rousseff dehors et d'assumer le pouvoir et de ne pas être en mesure de relancer le Brésil et d'assumer une partie de la responsabilité de la crise, ça a fait le nid électoral de l'extrême droite de Bolsonaro. Mais paradoxalement, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a, sur ce contexte de crise, une grande volonté de renouvellement du personnel politique. Mais il ne faut pas s'attendre à un renouvellement effectif. La plupart des députés, des congressistes qui vont chercher à se faire réélire le seront effectivement. Les 5 candidats qui sont en tête des intentions de vote ont tous une expérience politique importante, et même Bolsonaro, qui se présente comme un outsider, il est quand même député fédéral depuis 29 ans. Geraldo Alckmin, le candidat du PSDB, a été gouverneur et maire de São Paulo. Fernando Haddad a été ministre de l'éducation et a été maire de São Paulo. Marina Silva, on l'a dit, a été ministre elle-même. Mmh. Ciro Gomes a été ministre de Lula. Donc il y a très peu de perspectives de renouvellement du personnel politique et de renouvellement aussi des manières d'orienter la politique économique.
On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission. Nous retrouvons nos invités, Frédéric Louau, Stéphane Witkowski et Dominique Vidal.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le Brésil à la veille de l'élection présidentielle. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Frédéric Louot, professeur à l'Université libre de Bruxelles, vice-président de l'OPAL, que l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes au sein de Sciences Po et co-auteur d'un atlas du Brésil aux éditions Autrement. Stéphane Witkowski, président du Conseil d'orientation stratégique de l'Institut des hautes études d'Amérique latine, et Dominique Vidal, professeur de sociologie à l'Université Paris Diderot, chercheur à l'Institut de recherche migration et société, spécialiste du Brésil. Nous avons quitté la première partie de l'émission avec ce qu'expliquait Frédéric Louot en termes de volonté du peuple brésilien de renouvellement politique, mais finalement ce renouvellement dans les faits, il ne se produit pas. Quelques mots sur la situation économique du Brésil, on l'a évoqué rapidement en fin de première partie. Situation économique catastrophique depuis 2014, donc 2 ans avant finalement la rupture de 2016 et le départ de Dilma Rousseff, Stéphane Witkowski. C'est en 2015 que le Brésil plonge dans ce qui se révélera finalement la plus profonde récession de son histoire. Croissance 1% l'an dernier et cette année encore. Chômage, baisse du pouvoir d'achat. Le Brésil stagne. Son produit intérieur brut par habitant est le quart de celui des États-Unis. Et la productivité du travailleur brésilien équivaut seulement à 17% de celle de son homologue américain.
Et une situation économique extrêmement dégradée dans les milieux les plus pauvres et dans les favelas en particulier, et 13 millions de Brésiliens en chômage absolu. Effectivement, une récession que vous évoquiez, une toute petite embellie pour cette année qu'on estime peut-être pour un taux de croissance qui pourrait être avoisiné aux alentours de 2,5% cette année, mais une situation budgétaire extrêmement délicate et le rapport dette publique PIB s'est beaucoup dégradé en 10 ans, 72% du PIB à 87% aujourd'hui. Alors il y a eu une petite embellie aussi liée à une récolte agricole grâce à des bonnes conditions climatiques et une petite reprise de la consommation privée. Mais pour le reste, les problèmes majeurs d'engouement des infrastructures qui restent, ce qu'on appelle le coup Brésil, est toujours là. Et puis, ce qu'on sent aussi, c'est que quand on regarde les classements en termes d'IDH,
indice de développement humain,
La situation du Brésil a perdu plusieurs positions et loin derrière le Venezuela aujourd'hui. Donc c'est dire à quel point la situation est dégradée sur le plan économique. Et évidemment, toutes les agences de notation étrangères ont évidemment rétrogradé la position du Brésil aussi avec cette politique d'austérité budgétaire majeure et ces coupes claire, évidente dans les budgets sociaux qui se sont manifestés évidemment pour la population, mais aussi pour la culture, dans les universités, dans les musées. On a vu qu'il y a depuis une dizaine d'années, il y a huit musées, et non des moindres, qui ont été brûlés. En particulier le musée de Rio, qui était quand même un symbole de l'histoire du Brésil, de la famille impériale, où a été déclarée l'indépendance du Brésil à la fin de l'abolition de l'esclavage. Et à cela, le candidat de Bolsonaro a simplement dit, écoutez, je ne suis pour rien, c'est un feu, qu'est-ce que vous voulez, je n'y peux pour rien.
Voilà. Alors, il est vrai que faute de réforme, le pays a coupé dans les investissements publics, on l'évoquait, avec un accroissement de la pauvreté. Les derniers gouvernements, enfin surtout le dernier, celui de Michel Temer, s'est surtout focalisé sur les dépenses et non sur les recettes. Je voudrais qu'on dise quelques mots sur le programme des deux favoris de cette campagne présidentielle. Bolsonaro, on l'a dit, un ancien colonel. On compare ses idées à celles de Donald Trump et le Philippin Duterte. Il propose une réduction de la dette de 20% par le biais de privatisation, création d'un système parallèle de retraite par capitalisation. On peut juste souligner qu'au Brésil, Dominique Vidal, la retraite se prend à 50 ans, ce qui est absolument extraordinaire. Abaissement de la majorité pénale à 16 ans, assouplissement de la législation sur le port d'armes. Il n'est pas très clair, Bolsonaro, sur la lutte contre la corruption. Et de l'autre côté, candidat du Parti travailliste, ancien maire de São Paulo, il propose la fin du gel des dépenses publiques décidées par Temer, interruption des privatisations et participation de la compagnie Petrobras dans l'ensemble des projets d'exploration pétrolière en eau profonde. Quel bilan feriez-vous rapidement des années Temer ?
Les années Temer ont accentué le discrédit de la classe politique, puisque, comme vous l'avez rappelé en début d'émission, Michel Temer est également sous le coup d'accusations de corruption qu'il est parvenu à écarter momentanément en achetant la complaisance des congressistes, mais il va être rattrapé par ses affaires dès qu'il aura quitté ses fonctions et qu'il aura perdu son immunité. Sur le plan économique, il a engagé une réforme du code du travail très importante qui revient non seulement sur les acquis des années Lula et Dilma Rousseff, mais aussi sur le code du travail tel qu'il avait été mis en place dans les années 30 et 40 et qui va vers une plus grande flexibilisation, un affaiblissement du pouvoir de l'inspection du travail, de la justice du travail, une fragilisation des syndicats. Alors, c'est un mouvement qui n'est pas propre au Brésil, qu'on observe aujourd'hui dans la plupart des grandes économies, mais disons que jusqu'à présent ne voit pas très bien en quoi ces réformes ont permis véritablement une reprise solide de l'économie brésilienne. Puis comme l'a dit Stéphane Witkowski, de toute façon la situation budgétaire du Brésil est très préoccupante et le grand chantier qui attend le prochain président, c'est de toute façon la réforme du système de retraite. Alors bon, aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de gens qui partent à la retraite à 50 ans, ça existe encore, mais c'est des toutes petites catégories de la population. Système de retraite a considérablement changé progressivement depuis la fin des années 1990. Il était très avantageux pour certaines catégories de la population. Ça pouvait être justifié dans un pays où l'espérance de vie était très faible aussi pour beaucoup de catégories de la population. Mais le système des retraites représente aujourd'hui véritablement une part très forte dans les dépenses publiques dans un pays qui est encore relativement jeune. C'est-à-dire que la population brésilienne qui est à l'âge de la retraite ne représente qu'une petite partie encore de la population brésilienne. Le Brésil est en train d'arriver au bout de son bonus démographique, c'est-à-dire d'une période où la grande partie de la population est entre 15 et une soixantaine d'années, c'est-à-dire ne bénéficie pas encore du régime de retraite. Or, dans les 10, 20, 30 ans qui viennent, cette population va se retrouver à la retraite et la question du financement des régimes de retraite va se poser de manière dramatique, puisque on ne voit pas très bien comment l'actuel système de retraite pourrait être maintenu.
Alors, on va parler après ça de l'implication de tout ce qu'on a évoqué sur le plan intérieur brésilien, implication sur la place du Brésil dans le monde qui, là aussi, 2016, année de rupture, et depuis, on voit le Brésil un tout petit peu dégringoler. Quelques mots, avant d'en venir à cela, sur la justice. Frédéric Louau, on a parlé donc de Lula, interdit de se présenter à la présidentielle, Dilma Rousseff, qui a dû quitter le pouvoir. La justice au Brésil, pas si neutre qu'elle le prétend, elle a finalement surtout poursuivi les manquements du parti travailliste, davantage que les autres formations politiques.
Oui, du moins, c'est ce qui est rendu visible. Alors, il y a deux interprétations. La première, c'est l'interprétation plus optimiste qui considère que, enfin, dans l'histoire du Brésil, la justice a du pouvoir, la police fédérale peut mener des enquêtes et ces enquêtes peuvent enfin aboutir à des condamnations et donc ce serait la fin, finalement, d'un système d'impunité. Et on pourrait mettre ça, d'ailleurs, au crédit du Parti des Travailleurs, puisque c'est Lula et Dilma Rousseff qui ont largement contribué au renforcement du pouvoir judiciaire et policier. L'autre interprétation, beaucoup plus pessimiste, c'est celle d'une politisation de la justice et d'un acharnement du pouvoir judiciaire ou d'une frange du pouvoir judiciaire contre le Parti des Travailleurs. C'est ce qui est dénoncé finalement par les militants de gauche et par le PT lui-même, qui considèrent finalement qu'il y aurait un coup d'État et que ce coup d'État serait l'effet de la conjonction des forces entre le pouvoir politique, les élites médiatiques et le pouvoir judiciaire. Alors derrière ça, il faut aussi aller voir un petit peu plus loin et montrer qu'il n'y a pas seulement Lula qui est en prison, il y a aussi de nombreux dirigeants politiques au niveau local, à tous les niveaux de pouvoir, et des ministres qu'on ne peut pas taxer d'être de gauche, hein, notamment des anciennes personnalités politiques comme l'ancien président de l'Assemblée nationale, Eduardo Cunha, qui était le pire ennemi de Dilma Rousseff, qui purge actuellement une peine de 15 ans de prison. On a comme ça toute une série de partis politiques qui sont impliqués dans des scandales et qui sont rattrapés par la justice. Mais il faut quand même avouer que le Parti des Travailleurs, proportionnellement, subit beaucoup plus d'enquêtes et fait beaucoup plus l'effet d'acharnement judiciaire que les autres partis politiques, et notamment le PMDB, qui a de meilleurs relais auprès du pouvoir judiciaire.
Alors, politique étrangère, si vous le voulez bien, depuis le départ de Dilma Rousseff en 2016, on assiste à une sorte de soumission plus ou moins totale du Brésil aux objectifs nord-américains. Le Brésil a imposé un isolement au Venezuela. On peut se poser la question de savoir pourquoi. On peut rappeler qu'ils sont voisins. Dissolution de facto de l'Union des Nations Sud-Américaines, l'UNASUL, abandon presque complet des initiatives en faveur d'un monde plus multipolaire avec les BRICS et du rapprochement avec l'Afrique et les pays arabes. Tous ces domaines, Dominique Vidal et Stéphane Witkowski, étaient ceux où le Brésil avait joué un rôle d'impulsion et d'animation centrale. Et la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si le Brésil est toujours un acteur global.
Je dirais que c'est Witkowski. Oui, le Brésil était effectivement grâce notamment à la politique de Lula, était un acteur majeur sur la scène internationale, avec cette politique sud-sud, et dans la région, il apparaissait comme le pôle, en quelque sorte, de stabilité régionale au sud, en quelque sorte l'interlocuteur des États-Unis depuis un certain nombre d'années. Il s'affirmait de plus en plus. La situation actuelle, c'est indépendamment de la dégradation qu'on vient d'évoquer, c'est évidemment la division régionale en Amérique latine. C'est-à-dire que non seulement les ensembles régionaux ont éclaté, on l'a vu avec le Mercosur et en particulier l'expulsion du Venezuela du Mercosur, l'éclatement de l'UNASUR, la division de l'ALBA aussi, et donc il y a deux groupes de pays, en partie avec des alternances dans ces pays, que je parle de l'Argentine, du Brésil et de la Colombie, avec effectivement des pays qui suivent en quelque sorte une ligne pro-américaine, et puis les pays dits de l'ALBA ou bolivariens, qui sont en partie aussi divisés. Donc cette division régionale, l'influence américaine, le fait qu'il y a des intérêts privés des grandes entreprises brésiliennes, je pense Embraer,
qui a été
vendu en grande
cédée
à Boeing. Et on peut citer d'autres exemples de ce type, des privatisations préparées. Le programme que vous évoquez de Bolsonaro est un programme hyper libéral, mais totalement pro-américain. Et donc, probablement aussi avec les influences qu'on évoquait, les influences évangélistes, les liens avec les États-Unis, la politique Trump, la visite du vice-président Pence il y a quelques mois, appuyant, provoquant même un scandale parmi la population en grande partie pour ses prises de position à l'époque. Donc ce contexte ne facilite pas évidemment la réaffirmation du Brésil sur la scène internationale.
Frédéric Lou, je sais que vous devez nous quitter. Un commentaire sur les questions de politique étrangère et de la place du Brésil dans son environnement régional.
Tout à fait, le Brésil est en perte de vitesse depuis l'arrivée au pouvoir de Michel Temer, mais même avant, finalement, depuis la fragilisation et l'arrivée au pouvoir de Dilma Rousseff, qui s'est centrée sur des enjeux internes. Déjà entre 2014 et 2016, il y a eu un certain retrait du Brésil sur la scène internationale, du moins un moindre dynamisme, même si les diplomates sont toujours fort actifs. Après, il y a aussi une image du Brésil qui est écornée à l'international, d'abord par les scandales de corruption. On l'a vu en début d'année 2018, le scandale de la viande avariée qui a fait très mal à l'économie brésilienne, mais aussi à l'image du Brésil à l'international, et d'autres scandales, et notamment finalement le sort que la justice brésilienne attribue à l'ancien président Lula, qui met en émoi une partie de la communauté internationale aussi, et donc finalement cette fragilisation de la démocratie brésilienne nuit au soft power, c'est-à-dire au pouvoir doux du Brésil qui joue sur l'international, notamment en particulier à travers son image de démocratie stable, pacifique et de son rôle de pays conciliateur mais qui est lui-même concilié au niveau interne. Donc la polarisation politique interne, les tensions, l'émergence d'un candidat d'extrême droite qui met à jour finalement un substrat idéologique que la communauté internationale refusait souvent de voir mais qui est bien existant au Brésil, et la multiplication des scandales de corruption et cette politisation dénoncée de la justice, tout ça nuit actuellement à l'image du Brésil. Donc il y aura un rôle très important aussi pour le prochain président de la République de retravailler, d'améliorer l'image du Brésil à l'international. Et on peut imaginer que l'arrivée au pouvoir éventuel d'un Jair Bolsonaro n'irait pas du tout dans ce sens-là.
Dominique Vidal, image écornée du Brésil.
Bien entendu, le fait que le Brésil soit plongé dans un marasme économique et une crise politique de grande ampleur lui a fait perdre le rôle qu'il parvenait à jouer de leader des pays du Sud, autant de la prospérité économique et avec la personnalité de Lula qui tissait des liens forts avec d'autres pays du Sud. Et de ce fait-là, la diplomatie brésilienne, même si elle continue à essayer de limiter les dégâts, pâtit gravement de la situation du pays.
On peut conclure, enfin en tout cas c'est un peu le sentiment que l'on a à vous entendre chacun, un énorme gâchis, Stéphane Witkowski, et finalement c'est la corruption qui, année après année, avec les grands scandales, on n'a pas parlé du scandale Odebrecht avec qui était dans le bâtiment, enfin Petrobras, etc., qui a mis le Brésil dans cette situation.
C'est en grande partie des affaires de corruption, mais pas seulement. Le fait, en effet, qu'on venait d'évoquer que le Comité des droits de l'homme de l'ONU, des juristes internationaux, des prises de position d'anciens chefs de gouvernement européens, anciens présidents Hollande, et donc des regards à la fois européens, ONU, juristes, ces regards-là contribuent, en effet, à modifier ce regard sur le Brésil. Le problème du Brésil, c'est un problème, je dirais, à la fois, certes, de corruption, mais c'est un pays qui est aussi capable de révolte et de sursaut dans des moments totalement inattendus. Quand on regarde l'histoire du Brésil, c'est un pays avec des inégalités sociales absolument gigantesques, les plus criantes qui soient sur la planète, mais qui n'a jamais fait pour l'instant de révolution. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que on sent qu'il y a une sorte de bouillonnement à la fois intellectuel, politique, social dans le pays. Et je dirais que l'histoire n'est pas encore écrite sur le devenir du Brésil. Il y a quand même un point d'interrogation sur les années qui viennent.
C'est intéressant de poursuivre peut-être là-dessus, Dominique Vidal, donc un pays où les inégalités sociales sont très fortes, avec finalement ce grand clivage. On parlait de polarisation du Brésil. Alors, je ne sais pas si c'est le parti des travailleurs qui est à l'origine de cette polarisation. En tout cas, c'est une réalité, avec des élites économiques et politiques brésiliennes qui sont bien assises, hein, d'une certaine manière, sur leurs propres intérêts. Stéphane Witkowski faisait le constat qu'il n'y avait pas encore eu de révolution. Non pas qu'on appelle à une révolution, mais ce qu'on lit tout de même dans la presse française anglo-saxonne, c'est que les risques d'une guerre civile au Brésil ne sont pas totalement écarté.
Non, je pense que la polarisation concerne les acteurs politiques, la grande majorité de la population est là de cette situation politique, économique. De lassitude, on n'est pas au Venezuela. Après, il y a des acteurs qui cristallisent. J'ajouterai aussi une note d'optimisme dans un constat assez pessimiste que vous en dressez, c'est qu'effectivement le niveau d'éducation s'est quand même considérablement augmenté, qu'on voit bien qu'il y a des groupes qui échappent à l'emprise des grands partis, qui cherchent à réinventer des choses. Je pense qu'on n'est pas au bord de la guerre civile, c'est-à-dire que le parti n'est pas clivé en deux camps avec deux masses qui s'opposeraient l'une à l'autre. Par contre, il y a deux candidats qui clivent, ça c'est sûr.
Une frustration de la population qui ne se sont pas représentés. Et ce qui faisait la force de Lula, c'est qu'il y avait une adhésion sociologique du peuple brésilien avec son dirigeant. Et là, c'est quelque chose qui manque profondément au Brésil en ce moment.
Alors, on posait la question de la société civile, de son rôle. On l'a évoqué en début d'émission, c'est la mobilisation des femmes contre Bolsonaro. On a vu des grandes manifestations, les femmes descendent dans la rue. Les femmes au Brésil, c'est plus de 52% de la population et a fortiori de l'électorat. Donc, peut-être que les choses peuvent bouger à travers les femmes, Dominique Vidal, en guise de conclusion.
Mais espérons-le. Néanmoins, je lisais le dernier sondage qui dit que 37% des Brésiliennes envisagent de voter Bolsonaro au second tour. Donc la crise est plus profonde. Mais je crois qu'effectivement, c'est dans la société civile que se trouve la réponse au problème du Brésil. Et pour l'instant, cette société civile est très largement sous la coupe de la polarisation qui est imposée par les acteurs politiques.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Frédéric Louault qui était avec nous par téléphone, professeur à l'Université libre de Bruxelles, le vice-président de l'OPALC, l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes au sein de Sciences Po, et co-auteur d'un atlas du Brésil aux éditions Autrement. Stéphane Witkowski, président du Conseil d'orientation stratégique de l'IHEAL, l'Institut des hautes études d'Amérique latine, et Dominique Vidal, professeur de sociologie à l'Université Paris Diderot, chercheur à l'Institut de recherche migration et société et spécialiste du Brésil. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons de la diplomatie.